Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous, une reprise en main musclée dans le royaume d'Espagne. De nombreux membres de l'exécutif catalan sont sous les verrous. Un mandat d'arrêt européen est lancé contre l'ex-président de la région, Carles Puigdemont, et quatre de ses conseillers. De nombreux catalans s'indignent du traitement réservé aux indépendantistes et manifestent leur colère dans les rues de Barcelone. La dynamique indépendantiste est donc stoppée net. Mais la création même éphémère d'une république catalane relance chez certains le désir d'une république espagnole. Diane Cambon a rencontré à Madrid les défenseurs d'une troisième république.
Dans ce café du centre de Madrid, les têtes couronnées ne sont pas les bienvenues. Derrière le comptoir trône entre les bouteilles le drapeau aux trois bandes, violet, jaune et rouge, de la Seconde République espagnole, proclamée en 1931 et abolie en 1936 avec le coup d'État du général Franco. Les habitués de ce bar n'ont rien perdu des événements qui ont ponctué le conflit catalan depuis deux mois. Même si la plupart défendent l'idée d'une Espagne unie et solidaire, c'est avec un certain respect et même une certaine convoitise qu'ils auraient voulu assister à la naissance d'une république en Catalogne. Quique, la cinquantaine, est un anti-monarchique déclaré.
C'est un rêve romantique, mais franchement, pour les Républicains, s'ils avaient réussi à déclarer la République indépendante en nous laissant le reste du pays, ça aurait été frustrant pour nous. Mais j'aurais adoré assister à la création de n'importe quelle République.
Derrière le comptoir, Julio, le patron, est plus critique vis-à-vis des Catalans indépendantistes. Comme beaucoup d'Espagnols, il pense qu'ils se sont tiré une balle dans le pied en déclarant l'indépendance dans ces conditions-là, sans aucune garantie légale et soutien international. Pour lui, les dirigeants séparatistes ont trompé le peuple et au passage, ils ont galvaudé la belle idée de la République.
Les gens se sont sentis pleins d'espoir avec l'idée d'une possible République. Mais comme on a pu le voir, ils l'ont déclaré sans avoir rien préparé à l'avance, ni mis en place de structures fortes. On ne peut pas fonder une république sans en amont en poser les bases économiques, sociales et fiscales. Rien n'a été prévu, organisé, rien du tout.
Malgré ce sentiment de gâchis, la majorité des républicains espagnols espèrent s'affranchir un jour de la monarchie et fonder au niveau national une république fédérale où toutes les régions seraient à l'aise dans un cadre constitutionnel plus souple. Un souhait qui aujourd'hui reste une utopie.
En Turquie, le président Erdogan fait le ménage dans les rangs de son propre parti au pouvoir, l'AKP. Obnubilé par les élections de 2019, le chef de l'État s'en est d'abord pris au maire de grande ville qu'il a invité fermement à démissionner. Le reportage à Istanbul d'Anne Andlauer.
Les uns après les autres, ils tombent comme les feuilles mortes. Istanbul, Düzce, Niğde, Bursa, Ankara, Balıkesir... Six maires de grandes villes turques, élus du parti au pouvoir, ont démissionné depuis septembre. Démis par Recep Tayyip Erdogan, chef de l'État et de l'AKP, le parti de la justice et du développement. Le sort de ces édiles a été scellé en avril, lorsque le leader turc a remporté d'une courte tête un référendum instaurant un régime présidentiel. 51,4%, beaucoup moins qu'espéré pour un vote entaché de forts soupçons de fraude. À Istanbul, à Ankara, le non l'a même emporté.
C'était une alerte, un signal. Erdogan le sait très bien.
İsmet Akça est politologue.
Voilà la lecture qu'Erdogan fait de ses résultats. Je ne suis pas le responsable de ce revers, pas plus que l'atmosphère que j'ai créée dans le pays. En réalité, il fait comme il a toujours fait, rejeter la faute sur d'autres que lui.
Ainsi, plutôt que d'admettre qu'une large partie des électeurs ne voulait pas de sa réforme, Recep Tayyip Erdogan a accusé certains cadres et élus de l'AKP de ne pas avoir assez travaillé et a posé son diagnostic « l'AKP souffrirait, je cite, de fatigue du métal ». Au grand mot, les grands remèdes. Le président a décidé de nettoyer son parti de fond en comble. Objectif, se préparer pour 2019, année d'élections locales, législatives et présidentielles. Les maires démissionnaires ne sont que la pointe émergée médiatique du grand ménage en cours dans les rangs de l'AKP, souligne Hilal Kaplan, chroniqueuse du journal pro-gouvernemental Sabah, proche du président.
Après les congrès de quartier qui se tiennent en ce moment, ce sera au tour des districts, puis des branches jeunesse et femmes de l'AKP. D'ici fin 2018, début 2019, le parti doit être complètement renouvelé avec des cadres choisis par Erdogan qui travailleront dur pendant la campagne. Erdogan prend des risques, il a toujours pris des risques et c'est pour ça qu'il gagne.
Abdulatif Şener, un fondateur de l'AKP, vice-premier ministre de Tayyip Erdogan avant de quitter le navire en 2007, parle d'erreur plutôt que de risque.
Erdogan fait beaucoup d'erreurs depuis un an. Forcer les maires à démissionner en est une. De même, dans ses discours, il dit des choses qui dérangent de plus en plus de monde dans son électorat. Tout cela écorne son image, suscite des doutes et risque de lui nuire aux élections de 2019. Mais lui n'a pas l'air de penser ainsi.
Le politologue İsmet Akça admet qu'injecter du sang neuf dans un parti au pouvoir depuis 15 ans peut présenter des avantages. Mais il estime aussi que la méthode pourrait créer des crispations au sein de cette formation.
Les cadres et la base de l'AKP ont désormais compris une chose, tout est lié à la volonté et au bon vouloir d'un seul homme. Personne n'est à l'abri et plus aucune voix discordante ne sera tolérée. Cela peut créer, en réaction, des doutes, voire un rejet chez une partie des électeurs. Imaginez, les maires forcés de démissionner étaient en poste depuis des années. Ils avaient leur électorat. Cette stratégie pourrait donc se retourner contre Erdogan. Si, bien sûr, l'opposition sait s'en servir.
Les 6 maires remerciés avaient été élus, réélus 3 ou 4 fois pour certains. Ils auraient pu refuser de quitter leur mandat avant 2019 et s'attirer beaucoup d'ennuis, affirme Abdulatif Şener, l'ancien allié de Tayyip Erdogan.
Pour les convaincre de s'écarter, on leur a sans doute présenté des tonnes de dossiers qui pouvaient les compromettre. Beaucoup de choses ne tournent pas rond dans les mairies AKP. Des soupçons de corruption, des histoires d'appels d'offres. Erdogan aurait pu créer beaucoup de problèmes aux maires récalcitrants.
Reste que ces démissions forcées cadrent mal avec le populisme de Tayyip Erdogan, qui en appelle en permanence au respect de la volonté nationale. İlal Kaplan, l'éditorialiste proche du chef de l'État, tente une justification.
En théorie, c'est exact. Ces maires ont été élus. Mais il faut être réaliste, tout comme les députés de l'AKP. Ces maires devraient leur fauteuil à Erdogan. Si vous retirez Erdogan de l'AKP, il n'y a plus d'AKP. Et alors, c'est l'instabilité. C'est une lourde responsabilité dont il attend logiquement rétribution.
La contradiction ne surprend pas non plus le politologue İsmet Akça, mais pour une autre raison.
En réalité, cela fait déjà 3-4 ans que nous sommes dans un mode de gouvernement d'exception. Erdogan s'éloigne du populisme classique de ses débuts pour dire que nous sommes dans un état d'urgence, presque un état de guerre. Il répète que la Turquie est infiltrée et entourée d'ennemis. C'est comme ça qu'il justifie ses mesures radicales. Et qui va la sauver? Le chef qui ne fait qu'un avec elle, bien sûr. C'est une sorte de Bonaparte.
La fatigue du métal ne semble en effet épargner qu'une seule personne, Recep Tayyip Erdogan lui-même. En 2018, il aura dirigé la Turquie pendant 15 ans, aussi longtemps que Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République.
Depuis les révélations concernant le producteur américain Harvey Weinstein, les témoignages de femmes victimes de harcèlement sexuel se multiplient partout dans le monde et notamment en Europe. En Allemagne, après les anonymes, ce sont les stars des médias et du cinéma qui ont décidé de prendre la parole. Julien Méchoussi à Berlin.
Extra mit diesem Thema.
Cette voix, c'est celle de Birgit Schwörangel, l'une des présentatrices les plus connues de la télévision allemande. Chaque semaine, elle présente le magazine d'actualité Extra, diffusé sur la chaîne privée RTL. Âgée de 59 ans, Birgit Schwörangel a été l'une des premières personnalités médiatiques allemandes à témoigner publiquement. C'était il y a quelques jours à la télévision.
Un producteur de programme a tout fait pour avoir des relations sexuelles avec moi. Et comme j'ai refusé ses avances, qui sont allées très loin, mon temps d'antenne a été réduit au minimum.
Main baladeuse, posée sur le genou, le cou, invitation répétée au restaurant. Si Birgit Schwörangel a décidé de lever le voile à la télévision sur ses actes d'harcèlement sexuel, c'est aussi pour dénoncer le manque de soutien de sa hiérarchie.
Quand je suis allée voir mes chefs, ils m'ont dit « Fais un effort, va manger une fois avec lui et ce sera fini ». Et c'est seulement quand je suis allée voir le directeur de la chaîne que j'ai été écoutée.
Un témoignage fort qui a libéré la parole d'autres personnalités, à l'image d'Uschi Glas, célèbre actrice qui relate une scène d'amour dont un acteur a profité pour lui mettre la langue dans sa bouche. Des prises de parole qui viennent s'ajouter aux milliers, publiées sur les réseaux sociaux avec le hashtag Ich auch, version allemande de MeToo. Si ce mouvement est bien sûr largement salué, une question s'impose de plus en plus dans le débat public. Cette vague de témoignages va-t-elle enfin permettre de pouvoir changer les mentalités? Car ce n'est pas la première fois que l'Allemagne fait face à ces révélations. En 2013, le témoignage d'une journaliste victime de harcèlement de la part d'un homme politique de premier plan avait également suscité une grande indignation. Malheureusement, 4 ans après, rien n'a encore changé.
Julien Mech aussi à Berlin. L'affaire Weinstein a des répercussions différentes selon les pays d'Europe. Ainsi, en Hongrie, dans une société encore très conservatrice, la comédienne Lila Charosdi a eu le courage d'accuser nominément un célèbre metteur en scène de l'avoir harcelé sexuellement il y a 24 ans. Un témoignage à visage découvert, qui reste le seul pour l'instant dans ce pays, mais qui a libéré la parole d'autres femmes victimes de harcèlement. Le reportage de Florence Labruyère.
À 41 ans, la comédienne Lila Charosdi est une petite femme aux yeux verts qui a gardé des rondeurs d'enfance. Dans sa maison, où traînent les jouets de ses deux enfants, elle raconte l'histoire qui lui est arrivée à l'âge de 17 ans. Jeune lycéenne, déjà fascinée par le théâtre, elle est invitée à une répétition par le metteur en scène Laszlo Marton. À la sortie, celui-ci lui propose une promenade en voiture.
On est monté dans la voiture, une BMW blanche. L'ami du metteur en scène était au volant. Marton, le metteur en scène et moi, on était assis derrière. Pendant que la voiture roulait, il a ouvert sa braguette et m'a demandé d'embrasser son sexe. J'étais tellement choquée que je me suis mise à pleurer. Je disais « Non, non, je ne peux pas ».
En état de choc, la jeune fille est reconduite chez elle en voiture. Bien qu'elle soit allée voir un psychologue, elle a eu du mal à oublier ce traumatisme.
J'ai raconté mon histoire sur Facebook parce que j'avais cette souffrance à l'intérieur de moi. C'était comme un mur de douleur qui n'arrêtait pas de grandir. Je n'arrivais pas à surmonter ça, ni à me débarrasser du sentiment de colère et d'humiliation.
Posté sur le hashtag MeToo, le récit de Lila brise l'omerta. Le même metteur en scène est alors accusé par une dizaine d'autres femmes. Laszlo Marton fait des excuses, mais le 27 octobre dernier, il est limogé du théâtre qu'il employait et l'école d'art dramatique où il enseignait ouvre une enquête interne sur d'éventuels abus de pouvoir. Puis, en dehors du milieu artistique, des centaines de femmes commencent à raconter les violences qu'elles ont subies. Certaines écrivent à Lila.
Je reçois énormément d'emails de femmes. Elles ont de 22 à 70 ans. Certaines femmes n'avaient rien dit pendant 50 ans, comme cette femme abusée par son père pendant son enfance.
L'affaire a provoqué un débat sans précédent en Hongrie, estime l'universitaire et auteure féministe Reka Kingapap.
Il y a un débat public de grande ampleur et c'est quelque chose de nouveau en Hongrie, car la majorité des gens pensent qu'on ne devrait pas parler de ces choses-là en public et que si une personne a un problème, elle n'a qu'à porter plainte devant la justice. L'agression sexuelle est vue comme une question d'ordre privé.
Pour Reka Kingapap, le geste de Lila Charosdi a été salutaire, car il a encouragé de nombreuses victimes à parler.
C'est un tournant comme l'a été le geste de l'américaine Rosa Parks qui avait refusé de céder sa place dans le bus à un passager. Les choses n'ont pas changé tout de suite, mais c'est un geste de protestation. Beaucoup d'entre nous s'en souviendront. Et ça peut peut-être dissuader de futurs prédateurs.
Pour le journaliste Peter Urfi, le harcèlement sexuel est le symptôme de graves problèmes dans la société.
Ma prochaine enquête sera sur les écoles de théâtre et de cinéma, car j'ai entendu beaucoup de choses sur les professeurs qui abusent de leur pouvoir, qui humilient constamment les étudiants. Le harcèlement sexuel n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a une culture de l'humiliation et du harcèlement tout court dans ces écoles.
Raconter son histoire a soulagé Lila Charoujdi d'un grand poids, mais la comédienne s'avoue blessée par certaines réactions.
Ce qui me choque le plus, ce sont les réactions de certains artistes qui ont jeté le blâme sur les victimes. Que des gens connus disent ça, qu'ils fassent preuve d'autant de cynisme et d'insensibilité, c'est une honte pour la société hongroise. La Hongrie est encore une société féodale. Il faudrait que les hommes cessent de penser comme au Moyen-Âge et qu'ils arrêtent de dire que la victime est coupable.
L'onde de choc n'est pas près de s'arrêter. Les médias bruissent de rumeurs sur un autre homme de théâtre, le directeur d'une grande salle de Budapest, qui aurait commis de graves abus sexuels. Reste à savoir si une victime aura le courage de témoigner.
Écoute ce disque. Écoute ce disque.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Laurent.
Alors pour votre chronique musique de ce vendredi, qu'avez-vous en tête ?
J'ai en tête un nom, celui de Michael Head, qui ne vous est sans doute pas familier, mais c'est une légende de la pop anglaise qui vient de publier son premier album en une décennie, 4 ans après un premier retour discret avec un très beau maxi. Un rythme prudent pour cet auteur-compositeur brillant basé à Liverpool, dont la carrière a été largement perturbée par des addictions en tout genre. Aujourd'hui, Michael Head semble laisser les mauvais jours derrière lui et publie avec Adios Senior Pussycat un album resplendissant, prolongement d'une discographie qui a ses racines au début des années 80 quand il fonde les Pale Fountains, auteur en 84 et 85 de deux albums devenus des classiques, dans le registre d'une pop savamment arrangée avec cordes et cuivres, des instruments qui sont toujours là 30 ans après, au fil de chansons particulièrement élégantes.
People started telling lies, who were they to criticize? And what's the difference in you? And what's the difference in you? People try to fool you, they knew you so well.
Difference, extrait du dernier album de Michael Head pour refermer cette cinquième édition de la semaine. Accent d'Europe, réalisé et mis en onde toute cette semaine par Ludivine Amado. On se retrouve lundi dès 12h40 en universel.
What's the difference in you?
the difference in you.